CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler des secrets de famille et des dégâts qu'ils causent. Les secrets de famille, c'est malheureusement, c'est un tue-unité, c'est un tue-lien familial et ça fait beaucoup de dégâts.
Ouais.
Et aujourd'hui, on va en parler et Frank, aujourd'hui, tu dois être très content parce que tu vas nous annoncer une bonne nouvelle pour les héros de la foi.
Est-ce que j'annonce tout de suite?
Bah oui, tu peux.
Ok. Il va y avoir une nouvelle saison de Héros de la foi.
Yeah!
Il va y avoir des nouvelles des épisodes avec, on va aller voir trois personnes en particulier. On va les voir tout à l'heure.
On va
les
voir tout à l'heure.
Rubrique
dans les coulisses. Dans les coulisses, exactement. Notre rubrique dans les coulisses qui apparaît de temps en temps dans Bonjour chez vous.
Ouais.
Là, on va faire un beau dans les coulisses. On va revenir un petit peu sur même le succès de la première saison d'Héros de la foi. Puis on va voir la sortie de cette deuxième demain. Je le dis déjà,
au
cas où les gens ne suivent pas l'émission en entier.
Jeudi soir.
À 20h30. Exactement. Tous les jeudis soirs à 20h30, un nouvel épisode qui sort. Et on en parlera tout à l'heure. Et Jonathan, tu vas répondre à une question. Donc, pasteur, j'ai une question parce que tu es notre docteur de la parole. J'aime bien te donner ça. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. C'est du pratico-pratique. Comment faire pour avouer une vérité cachée depuis des années? Tu vas nous dire toute la vérité?
On va essayer.
Est-ce que tu vas
nous dire la vérité?
Est-ce que tu vas nous annoncer une vérité cachée sur le plateau?
Alors non.
Elle censure déjà. Mais non, tu n'as rien à cacher, je le sais. Et Nadine, on finira avec la rubrique culture et médias.
Oui, on va parler du week-end qui interpelle, qui est organisé par Porte Ouverte, ainsi que le dimanche de l'église persécutée. Deux événements très très importants qui arrivent très très bientôt.
Oui, on en parle en toute fin d'émission. Anne, t'es prête pour ta pensée?
Allez, ready.
C'est parti pour la pensée du jour.
Il y a un principe de base quand on donne sa vie à Jésus-Christ et qu'on apprend à le connaître comme son sauveur, c'est que nous devons marcher dans la lumière. Et je vais vous lire Éphésiens 5, 8 à 13 qui est très clair. « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. » De justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Alors, si nous nous appelons chrétiens, nous sommes appelés clairement à vivre dans la lumière et à ne pas cultiver de secret. Le secret, c'est de la dissimulation. La dissimulation, c'est des ténèbres. Les ténèbres ne sont pas de la lumière. Tout ce que nous faisons devrait pouvoir être étalé en pleine lumière. Souvent, je disais à mon église, ce que vous faites dans la semaine, ça devrait pouvoir être filmé et projeté en vidéo sur l'écran le dimanche matin et vous ne devriez pas en avoir honte. D'ailleurs, 1 Corinthiens 4:5 dit clairement que lorsque le Seigneur viendra, il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Alors il ne faut pas croire que nous y échapperons. Tout ce qui se fait dans le secret sera dévoilé et manifesté au grand jour. Alors je résume, quand on est chrétien, il ne peut pas y avoir de mensonges, de dissimulation et de choses qui se font dans le secret, parce que ces choses sont des ténèbres. Alors ça, c'est vrai pour tous les domaines de notre vie, mais particulièrement dans les familles. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un secret de famille? Alors là, je ne parle pas des secrets personnels qui ne regardent que le Seigneur et moi-même. Des choses que j'ai confessées à Dieu et que je règle avec lui en tête à tête, ou dans des cas de couple, quand il y a des situations d'adultère, il y a des choses qui se règlent dans le couple et qui ne regardent pas le reste de la famille. Là, je parle des secrets qui concernent autrui. Et très souvent, ces secrets-là sont liés à la filiation. On a caché à un enfant qu'il a été adopté, on a caché à un enfant qu'il est le fils de quelqu'un d'autre que son père officiel. Mais ça peut aussi concerner d'autres sujets comme l'argent, par exemple. Mais dissimuler, moi je dis souvent, c'est le contraire d'aimer. 1 Corinthiens 13:6, vous savez ce passage très célèbre sur l'amour qu'on lit souvent au mariage, mais on pourrait le relire dans d'autres circonstances. Dans 1 Corinthiens 13:6, il est dit « L'amour se réjouit de la vérité ». Et vous savez comme moi que l'amour, c'est l'ingrédient principal et par excellence des familles. On ne peut pas mentir par amour, c'est une tromperie de croire qu'on peut mentir, dissimuler et aimer en même temps. Mmh. L'amour agit en plein jour et l'amour ne ment pas. Mmh. Alors, la stratégie gagnante par rapport aux secrets de famille, la cultiver des secrets dans les familles, ça fait énormément de mal. Mmh. La première chose, c'est que ça entretient la crainte d'être découvert. On vit dans la crainte constante. Je pense à des parents qui ont dissimulé des choses très graves à leurs enfants, qui se retrouvent tous les jours à y penser en fond de ce qui, au fond de toutes leurs activités, ils ont cette pensée pourvu qu'ils ne sachent pas la vérité, qu'ils ne l'apprennent pas. Mmh. Et ça enlève la paix qui est normalement notre partage en tant que chrétien. Et aussi, les secrets de famille, ça va conduire à mentir. Parce que pour dissimuler, il va falloir souvent mentir, et un mensonge va entraîner un autre mensonge et entraîner aussi d'autres péchés. Ça va aussi entraîner dans les familles un sentiment de trahison, parce que un jour ou l'autre, ça sera révélé. Et quand la chose sera mise au grand jour, ben ça va amener un sentiment de trahison chez ceux à qui on a menti. Et puis aussi, tu l'as dit, Evelyne, tout à l'heure, ça instaure des divisions. Et pas seulement dans la famille, mais dans le monde de l'invisible, ça instaure des divisions entre les membres de la même famille, entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Alors, voilà, vivre en pleine lumière, c'est notre partage en tant que chrétien, ça doit l'être, et ça demande de la sagesse, ça demande de l'humilité, ça demande beaucoup de prières. Et c'est toujours la solution gagnante à long terme, et particulièrement dans les familles. C'est ça qui nous empêchera de tomber dans des péchés, et ça empêchera surtout le malin de nous coincer et de nous entraîner malgré nous dans encore des choses plus graves. Alors n'oubliez jamais que les petits secrets peuvent faire de gros dégâts.
Amen. Merci Anne. Oh oui, les secrets de famille, c'est quelque chose de très très délicat et de très dangereux quand on laisse ça s'installer dans notre vie de famille. Ça peut nous exploser en plein visage à des moments auxquels on ne s'y attend pas. On se dit non, mais personne ne le saura. C'est des choses parfois très graves. Parfois, c'est des choses moins graves, mais le fait que ce soit dissimulé pendant si longtemps fait que la chose, elle est en train de grossir, de grossir. Et quand elle explose, elle fait beaucoup plus mal que si on l'avait dit le moment venu. Mais comme tu l'as dit, Anne, ça arrive très très souvent que ce qui est fait dans les ténèbres est exposé en pleine lumière. Et d'une façon qu'on ne gère pas. Quand on décide soi-même d'avouer la vérité, on a un contrôle sur ce qui est dit, sur le moment où c'est dit, sur comment c'est dit. Quand ça jaillit à la lumière sans qu'on en soit acteur, eh ben là, on n'a aucun contrôle sur comment ça sort. Et puis, bonjour les dégâts. Anne, tu as cité le verset de Éphésiens 5, c'est notre verset du jour. Éphésiens 5, 8 et 9. « Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » On doit marcher dans la lumière. Ouais. Ce n'est pas une option, c'est pas juste le dimanche à l'église ou de temps en temps, mais on doit le faire au quotidien.
Oui. Mais il y a une tentation quand il se passe quelque chose qui est une situation embarrassante, parfois difficile, ça peut paraître une solution de facilité de mentir, de dissimuler. Ça va rendre les choses tellement plus faciles. Et on pense, et je l'ai dit dans ma pensée tout à l'heure, on pense à tort que c'est un geste d'amour que de ne pas le dire. Mais ça va être bien pire quand ça va être dévoilé. Et je pense qu'il y a vraiment... il faut sauter de la tête que ça sera la solution de mentir ou de dissimuler. Quand on est chrétien, on a tout à gagner, même quand on n'est pas chrétien d'ailleurs. D'une manière générale, l'humain a tout à gagner à marcher dans la vérité. Et l'idéal, c'est de laisser le moins de temps possible entre la situation embarrassante et le dévoilement de la situation. Je pense par exemple à un enfant que vous avez adopté, c'est souvent les spécialistes de l'enfance le disent, il vaut mieux le dire assez tôt à l'enfant pour qu'il s'habitue à cette idée-là, plutôt que d'attendre qu'il ait 15 ans pour d'un seul coup découvrir, ou pire encore, il se marie, il a besoin de son extrait de naissance, et puis il voit qu'il n'est pas le fils naturel de ses parents. Donc c'est un gros sentiment de trahison qu'on peut éviter en habituant l'enfant très petit à cette réalité que on est ton papa, on est ta maman. Là, il y a des façons de le présenter selon la situation. Quand il y a des situations, toutes sortes de situations qui peuvent donner lieu à des secrets de famille, on a toujours intérêt à le dire le plus tôt possible, c'est là que ça fera le moins de dégâts. Mmh. Et comme tu disais, les choses grossissent avec le temps, mais surtout, c'est que ça nous amène à d'autres mensonges. Mmh. Et plus on est en berlificoté dans les mensonges, plus ça sera difficile d'avouer la vérité.
Mmh.
Et la vérité, et ça on le sait parce que dans toute la Bible nous le présente comme ça, la vérité c'est un bouclier. Mmh. C'est un bouclier qui nous protège déjà, qui protège notre confiance mutuelle, mais bien au-delà, je l'ai dit dans ma pensée tout à l'heure, c'est un bouclier dans l'invisible, parce que ça empêche l'ennemi de venir s'infiltrer dans nos vies, mmh. et ça l'empêche d'avoir un bras de levier pour nous nuire.
Mmh. Voilà.
La vérité est un bouclier. Mmh. C'est pas parce qu'on a une auréole sur la tête qu'on dit la vérité, qu'on est des bons enfants bien sages, qu'on ne dit jamais de mensonges. Mmh. C'est parce que ça nous protège, mmh. parce que c'est un bouclier dans l'invisible. On empêche littéralement le malin de venir ruiner, puis mettre, vous savez, comme dans les arbres, des coins. Mmh. On met des coins qui vont abattre l'arbre après. Mmh, mmh. Ça empêche l'ennemi de venir placer ses coins dans nos vies.
Mmh.
Et on est protégé dans l'invisible par la vérité.
Oui, c'est vrai.
Il n'y a rien de pire que de vivre avec une conscience qui n'est pas tranquille, qui n'est pas pure, que tu sais que tu as quelque chose à avouer. Ça, c'est épouvantable. Et qu'est-ce que tu dis, Anne, le fait qu'on va ajouter et ajouter, c'est ça. Et c'est une réalité. Un mensonge va conduire à un autre et à un autre, et tu te retrouves pris dans un tas de mensonges comme ça, et ça va blesser tellement plus de gens par la suite. Il faut régler ça. On est clair là-dessus. Il faut le régler dès que tu peux.
Ah,
dès que t'as quelque chose te fait de mal, il faut le régler.
Ouais.
Un problème de famille, même si ça dure longtemps, tu dirais, mais ça fait 8 ans, c'est arrivé. Mais tu sens que ça cause encore des frictions. Tu sens que c'est encore là dans la tête des gens, dans l'arrière-pensée. Règle ces choses. Il y a rien de plus important que de faire ça, pour moi, en tout cas, parce que moi, je déteste vivre avec, dans la tête, est-ce qu'il est blessé par rapport à ça? Est-ce que t'as des remords? T'as une conviction qui vient? Il faut régler ça tout court. Une fois pour tout, il ne faut vraiment pas jouer avec.
Mais c'est sûr que bon, on n'est pas des kamikazes non plus.
Non.
Dire la vérité, c'est pas
ça,
non
c'est
plus
sûr.
Être brut de décoffrage, arriver et puis te lancer.
Justement,
il y a des vérités qui sont douloureuses,
ouais. mm-hmm.
qui seront encore plus si on attend, mais elles sont douloureuses maintenant. Il va falloir de la sagesse, il va falloir peut-être d'être conseillé.
Jonathan nous le dira dans la rue, parce que j'ai une question.
Oui, je crois que c'était sur son territoire, mais il y a de la sagesse à avoir.
Ouais.
On ne va pas agir avec légèreté sous prétexte d'agir dans la vérité. Il y a des gens qui, sous prétexte de vivre dans la vérité, sont très cash et vont t'envoyer par la tête toutes sortes d'affaires et qui te laissent blessé.
Ouais.
Donc, il y a quand même une façon de faire que Jonathan abordera tout à l'heure.
Ouais.
Il faut être sage et on peut se faire conseiller.
Ouais. Tu parlais d'adoption tout à l'heure, ça m'a fait penser à une amie à moi quand j'étais en Suisse. Ça fait des années, on a grandi ensemble, etc. Et à l'adolescence, elle a appris que sa mère avait été adoptée.
Okay.
Et en fait, sa maman n'avait jamais trouvé utile de le mentionner parce que sa maman le savait, c'était pas un secret, mais c'est juste que ça n'avait jamais été dit. C'est comme, on se dit, c'est pas important, au fond, ça change rien. Sauf que elle vivait en Suisse, on est quand même plutôt blanc de peau, puis elle avait un teint, elle bronzait très très vite et tout le monde lui disait toujours, non mais toi t'es espagnole, t'es italienne, tout le monde lui donnait tout un teint. Puis non, moi je suis 100% suisse et tout. Et à l'âge de, je sais plus, 15-16 ans, elle apprend que sa mère a été adoptée, mais ça a semé un trouble intérieur dans sa vie, gigantesque, perte d'identité, elle se retrouvait plus dans sa famille, elle se dit si on m'a caché ça, est-ce qu'on m'a caché autre chose? Et puis un désir de connaître tes racines finalement, en tout cas ça l'a vraiment affectée, et c'était malheureux en fait, parce que parfois il y a des secrets aussi qu'on ne prend pas la peine de dire parce qu'on estime que c'est pas la peine de reparler de ça, on va pas en reparler, je dis pas qu'il faut reparler des trucs douloureux toutes les semaines, absolument pas, mais s'il y a des choses qui sont nécessaire d'être dites, qui peuvent concerner quelqu'un d'autre, un autre membre de la famille, et que lui n'a pas été au courant, faut qu'il le sache. Je sais pas, même une demande en mariage dans la famille, quelque chose, des fois on se cache des choses, n'en parle surtout pas à maman, ou n'en parle surtout pas à ma sœur, à mon frère, une promotion, n'importe quoi, ça peut être des choses plus petites qu'une histoire d'abus ou autre, mais il faut vraiment se dire, qu'est-ce que ça peut générer quand la personne va l'apprendre de la mauvaise manière, qu'est-ce que ça va créer en elle.
Et la famille est au cœur de Dieu, et la famille, c'est le plan de Dieu que la famille soit unie, que la famille soit épanouie.
Oui.
Et les secrets, en fait, ce qui arrive, c'est que quand on a un secret dans une famille, Anne l'a dit tellement bien, elle a dit que l'amour ne dissimule pas. Et des fois, on veut dissimuler parce qu'on pense qu'on aime, mais c'est le contraire. Et vraiment, de dire que si je cache pour bien faire, Tu vois, je veux pas dire à l'enfant, par exemple, que son père, son oncle, peu importe. Des fois, il y a des familles qui ont récupéré l'enfant quand il était petit. Oui. Par exemple, en Afrique, dans ce contexte-là, il n'y a pas de papier. Oui. Donc, ça n'a pas été enregistré. Oui. Mais bon, l'enfant a grandi chez sa grande sœur, en fait. Et à cause de l'écart d'âge, il a toujours cru que sa grande sœur, c'était sa mère. Mais en fait, c'était sa grande sœur. Et ouais, puis, ouais. Comme c'est dans la famille, ouais. L'enfant est bien traité. On pense pas qu'on doit le dire. Ouais. Et des fois, on se dit, ben là, maintenant, le dire va créer plus de dommages. Comme, par exemple, dans le cas de ton ami, elle va se dire, bon, est-ce que c'est vraiment, on m'a aimé? Qu'est-ce que d'autres choses on m'a caché? Mais en fait, je pense que c'est l'ennemi qui va toujours nous faire croire que si on dit la vérité, on va se mettre dans le trouble, on va créer plus de dégâts. Mais vraiment, si on ne dit pas la vérité, c'est là qu'on va créer plus de dégâts. Si la personne l'apprend différemment, elle va l'interpréter différemment. Elle va pas comprendre qu'en fait, c'est parce que je t'aimais tellement que j'ai voulu te prendre avec moi, ou elle va le comprendre différemment. Et c'est vraiment important, parce que des fois, surtout dans des grandes familles, le pasteur Jonathan va en parler, mais des secrets, c'est vrai que ça fait des dégâts. Mais
il
vaut mieux.
Il y a beaucoup de choses.
C'est pas courant. T'as 5 minutes, je vais juste te le rappeler.
Mais quand on parle de dégâts et quand on parle de famille, des fois la famille a déjà plein d'éléments qui sont compliqués à gérer. Mmh. Et des fois, on ne veut pas dire ces choses-là. Pourquoi? Pour ne pas encore créer d'autres. Mais comme tu as dit, Dieu marche dans la lumière. Mmh. Et la vérité qu'on va dire est un bouclier. Ça va nous protéger de bien d'autres choses encore plus loin sur le chemin de la vie. Donc, c'est vraiment important, avec l'aide du Saint-Esprit, avec la sagesse de Dieu, en disant, Seigneur, je veux honorer ta parole. Je n'ai pas envie de raconter ces choses-là pour blesser. Mmh. C'est parce que je veux honorer ta parole. Et Dieu se tient derrière sa parole. Il honore ce qu'il honore. Et quand vous allez la dire, votre famille va être plus fortifiée que divisée, comme l'ennemi veut vous faire croire.
Même
en fait.
Exactement. Je veux dire, il y a des situations qui sont vraiment abracadabrantes, c'est-à-dire que la seule personne concernée ne sait pas. Le secret est gardé autour d'elle, mais tout le reste de la famille est au courant. Les oncles, les tantes, les cousins, même les voisins. Mm-hmm. Je me souviens d'un petit garçon que ma mère avait en classe, elle était professeur, puis il avait appris vers 13 ans qui était son père, mais la ville entière savait qui était son père. C'était un agent d'assurance du coin, d'ailleurs il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Tout le monde savait de qui il était le fils, sauf lui.
Ah, oh, quelle horreur.
Je veux dire, non, mais ça, c'est le pire scénario.
Et Jonathan, excuse-moi, mais on va devoir passer au pasteur. J'ai une question, parce qu'on a une rubrique dans les coulisses qui va arriver. Ah. Mais je te donne la parole, tu pourras dire ce que tu voulais dire et répondre à la question en même temps, si tu le veux bien. Nous avons donc Noël de France qui nous a demandé comment faire pour avouer une vérité cachée depuis des années. Mais je te laisse quand même faire ton intervention avant de répondre à la question de Noël.
Non, je voulais juste te dire qu'on est dans ce titre, les dégâts des secrets de famille. Oui. Et c'est sûr, quand on parle de secrets de famille, ça paraît mignon parce que c'est un petit secret. Mais en fait, il faut remplacer le mot secret par mensonge.
Oui.
Parce que c'est synonyme dans la circonstance ici. Mmh. Et donc, il n'y a pas de mensonge mignon ou de petit mensonge. Mmh. Le mensonge, c'est le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable.
Et,
et nous sommes appelés à marcher dans la vérité. Et il n'y a pas de petit ou de gros mensonge, quoi. Il y a le mensonge, point final.
Alors, vous pouvez réafficher la question, on peut y répondre.
Avec cette, je dois avouer que la première fois que j'ai lu cette question, je l'ai comprise de travers.
Ah, là j'ai peur.
Dans les bons pasteurs, j'ai une question, on se dit, tu vois la question, il la comprend d'une manière.
Ça arrive souvent.
La question est, elle est ainsi formulée, comment faire pour avouer une vérité cachée. Et moi, j'ai lu un peu vite, j'ai compris comment faire avouer une vérité.
Avec une arme. Avec une arme.
À la torture.
Si quelqu'un doit avouer la vérité, comment faire pour le faire avouer? Bon, mais si c'est caché, on ne sait pas qu'il y a quelque chose de caché à avouer. Alors, on va revenir dans l'autre sens.
Quand on sait, alors je te la reformule. Quand on a un mensonge qu'on cache depuis des années ou un secret, comment faire pour l'avouer aux personnes concernées?
Alors déjà, il ne faut pas attendre. Mmh. Comme on l'a dit, une vérité cachée, c'est un mensonge. Et le mensonge, il n'y a pas... Comment dire, quand on commence à mentir, comme Anne l'a dit, avec le temps, ça va s'amplifier. Oui. Et ce qui était un petit mensonge va devenir un gros mensonge. Mm-hmm. Et ce qui était une petite affaire va devenir une grosse affaire. Mm-hmm. Et plus vous attendez, plus ça va grossir. Donc, si quelqu'un hésite aujourd'hui en disant comment faire pour avouer, si vous attendez, ça va être plus difficile demain, ça va être plus difficile dans un mois, dans un an, dans 10 ans... que maintenant. Mm-hmm. Donc déjà, il ne faut pas attendre. S'il y a quelque chose qui doit sortir, le plus tôt ça sort, le mieux c'est.
Oui. Mm-hmm.
Maintenant, comment on dit déjà depuis des années. Donc déjà, c'est dommage que ça dure depuis des années. Et c'est peut-être parce que ça fait des années que c'est plus difficile à sortir.
Mm-hmm. Aussi, oui.
Un peu comme quand on veut arracher une mauvaise herbe, C'est plus facile quand c'est petit que quand c'est devenu un arbre et que l'on veut arracher.
Alors, une tronçonneuse.
Ça fait plus mal.
Ça fait plus mal.
Donc, pour avouer une vérité cachée, ce qui peut bloquer des fois quand quelqu'un a du mal à avouer une vérité cachée, il y a deux choses. C'est soit une culpabilité, parce qu'on se sent coupable et on a peur du regard des autres si on avoue la vérité. On passe pour quelqu'un de bien et puis on ne veut pas avouer quelque chose qui est caché, une image obscur ou que l'on ne veut pas que les autres voient, ou alors on a peur de blesser. Et dans ces deux situations, eh bien, il faut, comme on l'a entendu dans la fabuleuse
pensée
pour pensée.
Oh, ils sont mignons.
Eh bien, c'est l'amour qui fait toute la différence ici. Parce que si on n'aime pas, on va rester dans le mensonge. Et il faut que ce soit l'amour qui soit déjà le mobile de faire sortir cette vérité. On ne sort pas une vérité parce qu'on veut nuire à quelqu'un. Mm-hmm. Et les journaux d'enquête vont vouloir sortir des vérités pour faire le buzz ou pour nuire ou pour faire du mal ou pour faire chanter. Ici, on n'est pas dans ce mode-là. La vérité doit sortir par amour.
Oui.
Parce que on veut marcher dans la vérité et c'est l'amour qui nous pousse à marcher dans la vérité. L'amour de l'autre, parce qu'on veut bien faire et parce qu'on aime l'autre, on veut lui dire la vérité et on ne veut pas être dans un mode de cachotterie, de mensonge, parce qu'on l'aime. On veut être droit, transparent et honnête. De la même manière, si on cache quelque chose nous concernant, eh bien, on veut être vrai, honnête. Et on va dire la vérité à l'autre par amour de l'autre, mais si c'est quelque chose qui nous concerne, on va le dire justement aussi par amour de l'autre, mais on attend de l'autre, évidemment, un regard compatissant, et non pas de jugement et de reproche. Alors, si on est dans ce mode d'amour, ça va être beaucoup plus facile. Alors, la meilleure préparation, évidemment, c'est dans la prière.
Ouais.
Et il n'y a pas... Quelqu'un voulait une technique, il n'y a pas de bonne technique. Il n'y a pas de mauvaise technique. Il ne faut pas tourner autour du pot. Il ne faut pas être non plus cash. Je veux dire, dire la vérité, ça ne veut pas dire forcément dire tous les détails.
S'il
vous plaît. Des fois, s'il y a quelque chose de difficile à dire, ce n'est pas la peine de donner tous les détails. À la rigueur, on peut ouvrir la porte en disant, écoute, voilà, si quelqu'un veut avoir des détails, là, vous pouvez... Mais ce n'est pas la peine de donner ce que l'autre ne demande pas. Parce que l'autre, des fois, a besoin juste de dire « voilà ce qui s'est passé » et pas forcément... Pour prendre une situation d'adultère, par exemple, pas forcément d'avoir tous les détails, exactement comment ça s'est passé, où, et les circonstances. Des fois, ce n'est pas nécessaire. Et il faut donc être dans ce mode de sensibilité, d'amour envers l'autre, de chercher à ne pas blesser, mais que cette vérité, elle doit amener à construire.
Ouais.
Alors oui, ça peut choquer, ça peut surprendre, ça peut faire mal sur le coup, mais si on pense construction, eh bien, ça va aider. Je dis la vérité pour que ça aille mieux, pour construire dans un sens ou dans l'autre. Alors, priez, l'esprit est l'esprit de vérité,
Amen.
Et c'est cet esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité.
Amen.
Amen.
On a présenté un témoignage il y a quelques lundis en arrière, il n'y a pas si longtemps, d'une femme qui, justement, après avoir été saisie d'une conviction de péché, a avoué la vérité à son mari. Elle ne précise pas ce que c'était, mais ça avait l'air de quelque chose de très lourd. Elle avait vraiment prié avant, et son mari a surnaturellement été consolé, lui a surnaturellement pardonné, et le couple, en fait, est allé vraiment beaucoup mieux après que pendant que ce mensonge était en train de pourrir. Donc,
et elle avait un mensonge en elle-même qui disait « ne le dis pas ».
Mais c'est sûr.
Alors que les faits étaient le contraire.
Vraiment, vraiment. Merci Jonathan pour cette réponse. Je crois que si vous vous êtes senti concerné par ce thème, vous savez quoi faire, mais priez, comptez sur le Saint-Esprit pour qu'il vous dise quand et comment avouer cette vérité cachée, parce qu'il faut qu'elle sorte, mais de la bonne façon. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.jai.une.question@emcitv.com. Frank, nous allons continuer maintenant avec la rubrique « Dans les coulisses ». Frank, on l'a dit en début d'émission, une nouvelle saison de Héros de la foi. Très contents parce qu'on connaît cette émission, on connaît les fruits que ça porte. Avant de te donner la parole, on va regarder la bande-annonce.
Absolument.
Jeudi sur EMCI TV.
Oh, je viens juste de découvrir que j'ai de l'arthrite.
Pauvre petite, on l'a portée jusqu'ici, mais elle va sortir en marchant.
Soyez prête, ça s'en va, vous n'aurez plus aucune douleur à l'estomac.
Vous devez vous attendre à un miracle, si vous voulez qu'il arrive pour vous.
C'est une nouvelle saison de Héros de la foi avec Jacko, A.A. Allen et Oral Roberts. Votre délivrance est assurée si vous placez votre foi en Jésus-Christ.
Je maudis ce cancer! Je commande à ce cancer d'aller dans l'abîme! Tout ceci est l'action. Vous relâchez votre foi. Dieu relâche sa puissance. Vous croyez et Dieu guérit. Vous faites quelque chose, Dieu fait quelque chose. Vous vous tournez vers Dieu. Dieu se tourne vers vous.
Et oui, tout, absolument tout, est possible à celui qui croit.
Frank Poulin présente Les Héros de la foi, jeudi à 20h30 sur EMCI TV.
Ah, ça a l'air d'être une saison glorieuse!
Ça va être bon, Evelyne.
C'est cool.
Et puis, c'est jeudi 31 octobre. Demain, à 20h30 que ça va sortir. Je dis la date parce que si les gens le regardent en replay, ils vont savoir que c'est peut-être déjà passé, mais qu'ils peuvent aller le voir. Et donc, c'est ça. On est super content de pouvoir présenter la nouvelle saison avec, comme j'ai dit, Jacko, A.A. Allen et Oral Roberts. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais partager avec les gens qui sont ces trois différents hommes de Dieu qui ont marqué leur génération. Mmh. Et même jusqu'à Oral Roberts est décédé en 2009, ça fait pas si longtemps. Il était rendu assez âgé, mais il a impacté vraiment le monde. Et donc, le frère Roberts, je vais le dire comme ça, parce que c'est Oral, c'est pas tout le monde qui comprend, peut-être. Mais je veux dire...
Ral Roberts.
Voilà. On dit Oral Roberts.
Ah, c'est lui!
Ah. Et donc, oui, les gens comprennent. Mais c'est ça, je le dis en anglais, mais Oral Roberts. Et puis, donc lui, j'ai déjà fait un flashback sur lui, en fait.
Oui.
Et puis, j'avais expliqué que lorsqu'il était jeune, il était devenu un peu comme une star à son école. Et on le voit ici, ouais, c'est ça, sur les écrans. Il était devenu un peu une star de basketball à son école et tout ça. Et puis, il s'est effondré sur le terrain de basket en jouant une partie. Et puis, il s'est mis à tousser. Et là, il y avait du sang qui sortait et il avait la tuberculose. Oui. Il était condamné à mourir. Il lui restait quelques jours à vivre, en fait. Et comme que ça a été le cas pour d'autres hommes de Dieu, Lester Sumrall et puis d'autres qu'on a pu voir dans les flashbacks. Il a été guéri surnaturellement un soir. Ses parents ont entendu dire qu'il y avait un évangéliste qui était dans leur ville, qui priait pour les malades et que les malades étaient vraiment guéris. Donc, ils l'ont apporté. Et il a dit, lorsqu'il a imposé sa main, il a maudit la condition, le tuberculose qui était en moi. Il a senti une décharge d'électricité passer dans son corps. Et là, Dieu lui a parlé, en fait. Mm-hmm. Il l'a appelé, il lui a donné son appel qui était pour apporter le message de la guérison à sa génération. Mmh. Et donc, les années ont passé, il ne voyait pas forcément rien arriver. Et puis là, un jour, Dieu lui a dit, ben là, tu vas commencer, tu vas louer tel auditorium à telle ville, et puis tu vas voir, il va y avoir des foules qui vont être là. Et là, Oral a dit, si c'est de toi, je veux que tout soit payé, je ne veux pas avoir à débourser quoi que ce soit, et puis je veux surtout que les personnes soient guéries, parce que sinon, c'est fini. Mmh. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les gens se sont avancés, et puis là, il a commencé à avoir des guérisons, et le ministère a explosé. Et puis dans les années 50, le frère Roberts a monté son chapiteau partout aux États-Unis, et il était... je veux pas dire, il était parmi les premiers de cette vague de guérison de 1947 à peu près 57. Il y a eu comme une décennie où est-ce qu'il y a vraiment eu une forte action du Saint-Esprit dans les chapiteaux, sous les chapiteaux. Et puis, il a été utilisé d'une façon extraordinaire et beaucoup de témoignages qu'on reçoit de l'émission Héros de la foi viennent au travers même de ces émissions aussi. Les gens sont guéris lorsqu'ils prient pour les gens à la maison. On voit des choses extraordinaires. Et puis, on va regarder un extrait tout de suite d'une guérison lors d'un des Héros de la foi qui va être diffusé très prochainement.
Monsieur Fernie Page de Wilson en Caroline du Nord, route 2, membre de l'Église de Dieu, arthrite rhumatoïde. Frère Page, depuis quand avez-vous de l'arthrite rhumatoïde?
Depuis environ 9 mois.
Frère Page, croyez-vous que le Seigneur peut vous guérir ce soir?
Oui.
Vous vous y attendez?
Oui.
Oh, très bien. Ô Dieu, au nom de Christ, aie compassion de ton serviteur, comme au temps de Jésus, guéris et rends-le entier. Guéris et rends-le entier par ta puissance. Levez vos mains, s'il vous plaît. Ouvrez et fermez vos mains. Ouvrez et fermez-les encore. Faites ceci. Serrez ma main. Serrez-la. Oh Dieu, ces nœuds sur ses doigts doivent partir. Enlève-les-lui ce soir par le nom de Christ. Maintenant, ça part. Maintenant, ça part. Prenez ma main et serrez-la. Maintenant, vous avez de la force dans vos mains. Celle-ci. Oui, monsieur. Bougez vos épaules comme ça. Levez vos jambes de haut en bas. Avez-vous encore des raideurs dans votre corps, frère Page?
Non.
Plus rien du tout?
Non.
Regardez-moi. Il ne vous reste aucune raideur?
Non.
Qui a fait ça pour vous?
Jésus.
Jésus, serrez-moi la main. Dieu vous bénisse. Allez, rentrez et retournez au travail. En son nom.
Et wow. Bon, c'était comme ça.
C'est cool.
Mais pendant des semaines de temps, et les gens venaient, ils remplissaient son chapiteau à 10 000, 15 000 personnes qui étaient sous le chapiteau des soirs. Mmh. Les gens revenaient, c'est pas parce qu'il se passait rien, c'est parce que les gens étaient guéris d'une façon extraordinaire. Mmh. Et lui, Dieu lui avait dit, dans ta main droite, tu vas sentir maintenant une chaleur, et quand tu la sens, tu vas pouvoir détecter et prier, chasser les démons et prier pour les malades aussi. Mmh. Et donc lui, quand il sentait une chaleur dans sa main droite, il savait que c'était le temps de commencer à prier pour les gens. Et puis comme on a vu dans cet extrait, lorsque la personne se fait prier, on voit souvent ça, en fait, lorsqu'il met sa main droite, les gens sentent comme un choc. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait au travers de sa main droite et les gens étaient guéris comme ça. Wow. Et j'ai un témoignage qu'on a reçu d'une femme qui a suivi une des émissions du frère Roberts, qui a un petit enfant d'à peu près 15 mois, et elle nous a écrit, elle a dit que justement son enfant avait un œil qui louchait. Et puis, dans une des émissions, le frère Roberts prie pour une maman qui avait apporté ses deux filles qui avaient des problèmes aux yeux. Et la maman, elle, dans notre temps actuel, voit l'émission, elle dit, mais elle prie pour des problèmes de yeux, un œil qui louche et tout. Et puis, il voit les petites filles sont guéries dans l'émission. Mm-hmm. Elle dit, ben moi, je vais le prendre pour ma propre fille. Sa fille faisait dodo. Son enfant faisait dodo. Elle a dit, elle a mis ses mains sur ses propres yeux comme point de contact. Elle a dit, je reçois la guérison pour ma fille. Et là, elle s'est mise en accord avec la prière du frère Roberts. Et puis, le lendemain matin, elle s'est réveillée et elle dit, et Dieu l'a fait le 3 au matin, à son réveil, j'ai vu la gloire de Dieu, ses yeux sont revenus à la normale, alors je ne peux me taire et je donne gloire à Dieu et rends grâce à Jésus pour tout ce qu'il fait pour nous, que Dieu vous bénisse et bénisse votre émission. Wow. Et tu vois, et puis nous, ben, c'est ça, on voit Dieu agir au travers de l'émission Héros de la foi, beaucoup d'autres guérisons. Mm. Et puis, le frère Allen, ben, lui est allé sous le chapiteau du frère Roberts, justement, et un soir, et le frère Allen avait pas encore son propre chapiteau, mais il a été touché et Dieu lui a parlé pendant qu'il a assisté à une des réunions du frère Roberts. Il était sous le chapiteau au fond et il a dit, on peut le voir, oui, c'est ça à l'écran, il a dit à sa femme, si il est capable de le faire, je peux le faire aussi. Et puis Dieu l'avait appelé à prêcher aussi, à être un évangéliste. Et puis, ben, il a acheté son premier chapiteau, il a commencé à faire des réunions et des choses extraordinaires se sont produites. Mm-hmm. Je connais des personnes qui ont assisté aux réunions du frère Allen en vrai aussi dans les années 50. Et il disait que c'était tellement surnaturel qu'on n'arrivait même pas à le croire, tellement que c'était fort. Il dit, les gens, ça se pouvait pas. J'avais jamais vu une dimension de miraculeux comme ça. C'était extraordinaire qu'est-ce qui se produisait pour le frère Allen. Et puis, il y a le frère Jacko, qui, lui, était un homme de foi tellement convaincu de ce que Dieu voulait faire et de ce que Dieu était capable de faire. Il était un homme, on le décrit comme ça, qui avait une foi tenace dans les promesses de Dieu. Il refusait que ça ne fonctionne pas, entre guillemets. Les gens arrivaient, il y avait des personnes qui avaient besoin de guérison, mais ça se manifestait pas, il lâchait pas le morceau, tu vas être guéri. Et les gens, bon, ils repartaient guéris. Mmh. Et vous allez tous pouvoir le regarder dans l'émission Héros de la foi, qui sort demain, justement, à 20h30. Et il va en avoir plusieurs, en tout cas, émissions qui vont être là jusque dans le début de la nouvelle année.
Excellent, ce sera donc disponible sur la chaîne EMCI TV et sur le site emcitv.com pour tous ceux qui veulent suivre en replay. Sur la chaîne YouTube exactement. Exactement. Ouais. Merci Frank, merci pour Hélène. Le beau travail que tu fais dans cette émission Héros de la foi. Nous continuons avec la rubrique Culture et Médias. Alors Nadine, aujourd'hui donc tu nous parles du dimanche de l'église persécutée et du
week-end qui interpelle.
Week-end qui interpelle.
Oui, alors c'est deux événements qui sont organisés par Portes Ouvertes. C'est un organisme que nous connaissons très bien, qui fait des choses extraordinaires vraiment pour les chrétiens persécutés. Et il y a le dimanche pour l'église persécutée, mais avant ça, le week-end avant, donc le week-end du 2 au 3 novembre, donc tout de suite là, c'est encore possible de vous inscrire dans la région parisienne à Dannemarie-les-Lys. Ils organise le week-end qui interpelle. En fait, le thème cette année, c'est croire à contre-courant. Et donc, dans l'affiche, vous voyez ici plusieurs pays, l'Inde, la Malaisie, la Colombie, la Chine, l'Irak et le Golfe Persique, des régions où les chrétiens sont très, très persécutés. Et dans cet événement, en fait, c'est une occasion pour nous, en tant que chrétiens ici, qui sont peut-être dans des régions où est-ce que la foi est libre, où est-ce qu'on est libre de louer notre Dieu, de vraiment être fortifié et renouvelé dans sa foi et de vraiment se mobiliser pour prier pour nos frères et sœurs dans le Seigneur qui, eux, sont persécutés, qui, eux, risquent vraiment leur vie au péril, justement, de leur croyance en Jésus. Et donc, on a une petite vidéo qu'on va pouvoir vous montrer par rapport au week-end annuel de Portes Ouvertes.
fait des années qu'on vient, mais je trouve que chaque année c'est autrement. Chaque année on a l'impression que c'est plus fort.
On voit vraiment la foi des frères et sœurs dans d'autres pays, mais ça nous remet même en question sur notre foi. Parce que quand on voit ce qu'ils vivent, c'est quelque chose d'immense, c'est vraiment incroyable. Cette foi, mais inébranlable.
Quand on voit tous ces gens qui souffrent et que malgré leur souffrance, ils ont une paix sur le visage, eh bien, on a beaucoup à apprendre. C'est eux qui nous relèvent, on va dire, par leur témoignage, par leur façon de vivre.
Ça nous a vraiment encore montré combien Dieu est un Dieu qui agit, un Dieu puissant. Et donc moi, ça m'a vraiment boosté dans ma vie de prière. Là, j'ai envie de rentrer et de passer du temps devant Dieu pour mes frères et sœurs persécutés.
Et c'est important de penser à l'Église persécutée. On veut remercier tous ceux qui, il y a quelques semaines, il y a 15 jours à peu près, avaient signé la pétition pour l'Algérie. On pense à nos frères et sœurs qui sont en Algérie. Et puis, bonne nouvelle aussi, à partir de après-demain, on sera en Afrique du Nord sur le satellite NiSat. Et donc, on va pouvoir rejoindre toute l'Afrique du Nord, l'Algérie. Donc, les églises sont fermées, mais ils peuvent regarder EMCI.
Amen.
Ils pourront regarder EMCI sur NiSat, mais aussi le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Liban. Donc, prier pour l'Afrique du Nord, c'est important.
Amen.
Que la gloire de Dieu se manifeste dans cette région.
Amen.
Amen. Et donc, dans le week-end annuel qui interpelle, justement, il y a des chrétiens qui vont venir de différents pays, comme les 5 pays qui sont mentionnés là, et qui vont donner leur témoignage aussi de ce qu'ils vivent comme persécution et comment ils gardent la foi, ils sont à contre-courant, ils croient à contre-courant parce que c'est à contre-courant de leur famille. Il y en a qui sont vraiment rejetés complètement de leur pays, des idéologies de leur pays sont vraiment à contre-courant, mais ils persévèrent. Et donc vraiment, c'est très très intéressant. Je veux vraiment mentionner qu'il y a vraiment des témoignages des chrétiens qui vont venir parler de façon concrète. Et aussi, il y aura de la louange, des stands, des activités pour les jeunes, des programmes pour les enfants. Donc allez rapidement sur portesouvertes.fr, inscrivez-vous et participez en grand nombre. Et deuxièmement, je parlais le dimanche 10 novembre, donc le week-end vous interpellez. Le dimanche suivant, vous vous mobilisez dans votre église locale pour le dimanche de l'église persécutée. Tellement important, encore une fois, c'est un événement qui dure depuis 20 ans où vraiment les églises se rallient pour prier, pour témoigner, pour vraiment faire plusieurs événements autour des chrétiens qui sont persécutés. Le dimanche, l'église persécutée, c'est pour nous aider vraiment à rester solidaires, à rester alertes, parce que des fois, nous aussi, on peut s'assoupir et oublier qu'il y a 245 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés dans le monde. 245 millions, c'est pas rien. Et sur portesouvertes.fr, encore une fois, vous pouvez aller vous inscrire. Déjà, ils disent c'est 800 églises qui sont inscrites, 200 groupes jeunes, 150 antennes bénévoles qui sont mobilisées pour les chrétiens persécutés. Votre église peut s'inscrire et c'est une occasion de vraiment témoigner de la compassion et de l'unité qu'on devrait avoir en tant que famille de Dieu. Et il y a des packs qui sont disponibles pour les jeunes, j'ai envie de le mentionner. Les jeunes peuvent aussi se mobiliser pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pour prier, pour vraiment comprendre un peu la réalité des autres chrétiens. Ils ont même des packs pour des enfants, parce que les enfants peuvent comprendre, avec des enseignements bibliques adaptés à leur âge. Par exemple, l'histoire des 12 espions, c'est vraiment bien, bien expliqué, évidemment, pour le culte aussi, l'église en elle-même. Vraiment des choses très, très intéressantes qui sont mises à disposition. Et j'aimerais mentionner qu'il y a une activité, un projet de soutien qu'en tant qu'église, on peut participer. Et ce projet va bénéficier les chrétiens du Myanmar et du Niger. Et vraiment, c'est tellement important. Je ne peux pas insister assez sur le fait de se mobiliser pour le dimanche de l'église des persécutés. C'est sur portesouvertes.fr. Allez-y, s'il vous plaît, vous inscrire.
Merci Nadine. On a déjà parlé plusieurs fois des chrétiens persécutés et à la maison, vous avez peut-être été nombreux à être émus, à être touchés, à pleurer même devant ces histoires de chrétiens qui ont souffert, qui ont été persécutés. C'est beau, les larmes, c'est beau d'être touché, d'avoir le cœur ouvert à ça, mais ce qui est encore plus beau et surtout plus efficace, c'est de se mobiliser. Ouais. Mm-hmm. Donc si vous avez été touché une fois ou l'autre lors de nos émissions, on parlait des chrétiens persécutés, des martyrs, eh bien sachez que vous êtes êtes concernés aussi pour vous mobiliser, pour ne plus laisser nos frères et sœurs être seuls dans ce combat. On n'arrêtera pas la persécution. Faut pas rêver, on n'arrêtera pas la persécution. Mais par contre, on peut les soutenir. On peut les soutenir par la prière, on peut les soutenir de manière concrète. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et ce que fait Portes Ouvertes vaut la peine. Absolument. Mobilisons-nous. Merci Nadine pour cette rubrique. Merci à tous. On a fait un beau marathon aujourd'hui. On va se retrouver demain. Ce sera un petit peu plus calme ou pas. Nous verrons. Notre thème sera développons notre relation avec le Saint-Esprit et nous aurons notre invité de la semaine, Jean-Luc Traxel, notre cher évangéliste que nous aimons beaucoup, qui va faire une rubrique conseil du coach sur le fait de développer notre intimité, notre communion et le partenariat avec le Saint-Esprit. Une très belle émission en perspective. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.